Tu ne fais pas partie du gratin? Tu ne connais pas la cousine de la grand-mère de Britney? Pas de panique, Trent Mix Radio te déroule le tapis rouge. C'est la rencontre VIP, avec Trent.
Salut tout le monde, c'est Trent. Vous vous souvenez de ça? Ou encore de ça? Eh ben bravo, c'est le groupe R. Eh bien, il y a de ces artistes passionnés, surdoués, qui se font très très rares dans les médias, mais qui viennent quand même faire une halte sur Trent Mix Radio. Jean-Benoît Dinkel, la moitié du groupe R, a accepté de nous présenter en exclu Starwalker, son projet avec Bardy Johansson et Kerenan, et de nous donner au passage une leçon d'histoire de la musique ultra intéressante qu'on n'oubliera pas de sitôt. Vous en avez de la chance, enjoy! Jean-Benoît, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Trent Mix Radio. On est vraiment ravis de t'accueillir pour évoquer Starwalker, qui est l'un de tes side projects. Alors, c'est un projet qui a été monté avec Bardy Johansson de Bang Gang, qui est un groupe islandais. Alors, comme je te le disais, on a adoré chez Trent Mix Radio. C'est très aérien, très planant. Ça s'écoute vraiment très agréablement. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un album qui est tiré d'un EP de 4 titres qui date de 2014, c'est ça?
Disons qu'on a pris un peu de temps pour sortir l'album, donc du coup, l'album il est terminé depuis un an. C'est bizarre d'en parler, parce que tout va très vite, musicalement tout va très vite. Alors
d'où ma question, est-ce que l'album entier était prévu depuis 2014, ou pas du tout, ou c'est une continuité des choses?
Non, ce n'était pas prévu, comme la plupart des accidents musicaux... de ma vie.
Oui.
Donc, c'est suite à la rencontre de Bardy Johansson.
Oui.
Disons que, je sais pas, j'ai. Bon, déjà, on s'entend très bien, et puis j'ai voyagé pas mal de fois en Islande.
Oui.
Parce que j'adore ce pays. Et donc, du coup, l'album est un peu tiré de ça, de ce voyage, de cette rencontre avec cette culture et cette comment dire, façon de vivre. J'adore, en fait, aller là-bas. Et, l'album est vraiment emprunté pas mal d'ambiance sonore, même, de ce pays.
Oui.
C'est un pays, en fait, très, très calme. Et quand on y est, on est en notion totale avec une certaine nature. C'est un, voilà, c'est un album de lâcher prise, un album planant, comme tu disais, mais qui est aussi dans une humeur... assez simple, pas très compliqué, obligatoire.
Et alors, je sais que Kerenan a participé à deux titres, hein, c'est ça, c'est Bad Weather et Losers Can Win. Et elle avait déjà collaboré avec Bardy, me semble-t-il. Comment s'est passée cette rencontre entre toi et Kerenan? Je crois que vous ne vous connaissiez pas au départ, c'est ça?
Non, on ne se connaissait pas, mais on s'était vu quand même un peu à droite à gauche. En fait, c'est curieux parce que c'est un peu la voix de... Et Kerenan, celle de Bardy et la mienne.
Oui.
Quand on est en trio et qu'on chante en même temps, ça fait un beau timbre, finalement.
Je confirme.
Voix, très bien. Et je voulais réunir ça dans un morceau.
D'accord.
Et ça s'est fait très, très naturellement.
Alors, quand je prépare les interviews, je vais voir toujours un petit peu à droite à gauche ce que mon invité a dit dans les médias, etc. Et ce qui en ressort, c'est que tu as l'air d'être quelqu'un qui est très perfectionniste. T'as un rapport à la musique qui est à la fois spatial, cosmique, artistique, dans le sens noble du terme, évidemment. J'ai cru comprendre que t'étais très, très attaché au vinyle, à la manière d'écouter la musique aussi. D'où ma question, je suis un peu curieux, comment ça se passe les sessions de compo avec toi? Comment est-ce que tu travailles?
Non, je ne crois pas être très perfectionniste.
C'est ce qui en est ressorti pourtant.
Je suis plutôt dans le lâcher prise. D'ailleurs, je trouve que j'écoute pas assez de musique.
Oui.
J'ai remarqué aussi que généralement les compositeurs n'écoutent pas assez de musique. Ils se réservent leur temps d'écoute pour eux-mêmes quelque part.
Oui,
en fait,
mais oui.
C'est assez égoïste. Sortir un vinyle, c'est... C'est un peu la finalité d'être musicien. Le vinyle, c'est quelque chose d'universel qui reste, qui est collector. Et puis, je trouve que le vinyle, c'est vraiment le support parfait pour la musique. D'ailleurs, c'est quelque chose qui tourne. Donc, il y a la notion de boucle et la notion d'envoûtement, quelque part, qui reste sur le vinyle.
Chose qu'on n'a plus maintenant.
Voilà, mais sinon... Ouais, c'est vrai. Disons que je suis vraiment dans l'accident. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'idée préconçue. Je suis vraiment dans l'improvisation. Je pense que la musique, c'est quelque chose qui se vit au fond de soi sur l'instant et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Après, on peut écrire de la musique chez soi et la faire interpréter ailleurs et l'enregistrer. Mais moi, j'ai toujours improvisé sur le vif et capter ces instants en studio.
J'ai aussi remarqué quelque chose, ça m'a marqué vraiment en lisant tes interviews. Tu dis que tu n'es jamais content de ce que tu fais et que c'est ton côté parisien prétentieux. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein. je relève ce que tu as dit. Et tu es toujours très, très dur envers certains titres de R. Par exemple, tu as dit que l'un des plus connus, qui s'appelle Kelly Watch the Stars, tu dis que tu as complètement planté le tempo, qu'elle est trop lente. Enfin, tu es très dur sur ton travail, je trouve.
Non, mais Kelly Watch the Stars, c'est une super chanson. Quand on la joue sur scène, elle est superbe. Et j'adore cette chanson, mais j'ai l'impression que parfois, dans pas mal de morceaux que je fais, c'est comme si le tempo était inadapté, mais c'est dans un style aussi. Ouais, tous les artistes sont pas contents de ce qu'ils font. Non, je sais pas.
Ça dépend.
J'ai toujours envie de refaire.
Ça dépend. Pas tous, je te garantis, pas tous. Tu as dit autre chose qui m'a interpellé. Tu as dit que tu jouais de la musique classique, donc tu as une formation classique. Et tu dis que c'est ta façon de te régénérer et que tu n'es qu'un troubadour électro qui s'incline devant les maîtres de la musique universelle. C'est une très belle phrase. Et tu dis également, j'essaie de ne pas oublier que Mozart aurait peut-être un laptop de nos jours. Tu penses que ça aurait donné quoi, justement, Mozart avec un laptop et Pro Tools, franchement? Tu penses que ça aurait cartonné en radio ou pas du tout?
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que Mozart, on le voit dans le film Amadeus.
Oui.
Si ça se trouve, à notre époque, il fréquenterait les clubs échangistes, je ne sais pas. Non, mais Mozart, il était avant tout, il écrivait de la musique populaire. De la musique pour l'art pur de la musique, c'était souvent des commandes.
Oui.
C'est pas ce que je préfère dans la musique en général, mais ce que j'entends, en tous les cas, c'est des arrangements et une écriture, un dessin harmonique ultra parfait et extrêmement personnel et très très fin, qui devait demander en fait une connaissance ultra approfondie et
pointue,
extrêmement géniale de l'harmonie en général. Et oui, je pense qu'à notre époque, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, il ferait de la musique populaire, donc il aurait clairement un ordinateur qui se remarquerait parce qu'elle serait extrêmement aérienne et bien faite, elle serait quasiment peut-être inhumaine.
Oui.
C'est ça. Elle est divine en fait, la musique de Mozart, elle est extra-humaine, on a l'impression que c'est un peu un demi-dieu qui a fait cette musique, elle dépasse l'humanité et peut-être qu'elle paraîtrait comme ça, peut-être sur de l'électro, mais qui paraîtrait peut-être complètement faite par une intelligence artificielle ou quelque chose comme ça.
C'est super intéressant en tout cas comme vision de Mozart. Alors je te parlais de la radio tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as un rapport avec la radio qui est assez complexe. Je suis obligé de te poser la question parce que je suis directeur d'antenne, forcément. Tu dis que quand tu travailles, il n'y a jamais de volonté commerciale radiophonique. Et j'ai relevé une phrase que tu as dit, si j'étais un dictateur et que je pouvais imposer mes goûts à la radio, ce serait peut-être horrible. Et pourtant, il y a un titre qui s'appelle Radio dans cet album. Qu'est-ce que tu entretiens avec la radio? C'est du je t'aime moi non plus. Quel est le rapport que tu entretiens avec ce médium?
Disons que j'ai pas forcément de rapport puisque je ne contrôle pas la radio. C'est-à-dire que les radios jouent ce qu'elles veulent. Et donc du coup, si elles ont ouï dire par magie de la musique à laquelle j'ai participé, eh bien elles ont le choix de le jouer ou pas. Et donc c'est impossible, c'est le goût des autres. On peut pas contrôler ou avoir une influence sur le goût des autres. On ne peut espérer qu'être choisi éventuellement. Je pense qu'il y a des gens, des artistes qui sont capables de produire et d'impacter la musique pour que ça plaise éventuellement à la radio, mais c'est une forme de talent.
Oui.
Moi, je pense pas que j'ai ce talent. Donc du coup, j'opte directement pour faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui me fait des faits, qui me soit émotionnel, et puis voilà. Il y a des gens qui sont tellement meilleurs que moi là-dedans. Donc je préfère... Donc ma seule chance d'avoir du succès, c'est d'être sincère.
Alors Kitty, musicien dit forcément live, tu as une très très belle définition du live. Tu dis que c'est à travers l'envoûtement du live que tu vis et que tu peux supporter les désagréments de la vie et que c'est ton univers parallèle. C'est magnifique comme description. En revanche, j'ai cru comprendre qu'il n'y aura pas de date de prévue pour Star Walker. C'est pas trop frustrant pour toi de ne pas lui donner sa chance à ce projet sur scène?
Peut-être qu'on va jouer sur scène, mais ça dépendra du succès. Tu sais, tu disais que c'est un side project, mais finalement, toutes les œuvres d'art sont des side projects et tous les groupes sont des side projects. Oui. R, c'est un side project aussi, et je pense que si ça n'avait pas marché... On n'aurait pas continué ensemble. En fait, c'est le public
qui décide,
qui forme les artistes et qui forme le succès. Si effectivement l'album décolle à fond et que il y a plein de vents, etc. Et je sens vraiment qu'il y a une sorte de vent, etc. Ben, le live va suivre. Et pour l'instant, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'étais pas prêt, tu vois, à tourner pendant un an ou deux ans dans des circonstances assez misérables pour donner une chance au projet et puis me retrouver dans deux ans au bout du rouleau.
Je comprends.
Et là, de faire un deuxième album, je préfère rester en studio et faire d'autres choses.
Oui.
Tu sais, quand un projet marche, même les festivals t'appellent et les gens t'appellent pour jouer.
D'accord.
Donc, si ça se passe, je ferai éventuellement.
Tu remontes sur scène avec R pour quelques festivals cet été, dont le Wheel of Green à Paris, hein, je crois.
Oui, c'est ça.
Et c'est pour contrebalancer ton manque de scène ou est-ce qu'il y a un autre but à ça?
Il y a une très grande demande des publics, et notamment à l'étranger, aux États-Unis.
Oui.
Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de jouer les morceaux en bonne situation.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est jubilatoire de jouer devant plein de gens comme ça, avec un son énorme, et dans la nuit, et de jouer, de jubiler, de voir les étoiles et les lumières, et de voir ce gros son et ces morceaux qui sont géniaux, que j'adore.
Jean-Benoît, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Alors, on a 11 ans d'écart, tu pourrais presque être mon grand frère, on va dire, ouais. Tu as eu une carrière absolument exceptionnelle avec R, tu as eu des collaborations que tout le monde envie, notamment évidemment avec Sofia Coppola, tu fais des remixes pour Dépêche Mode, pour Bowie, pour Beck. Tu es chevalier des arts et lettres, je ne savais pas, mais je l'ai découvert dans ta bio. Tu as eu deux victoires de la musique en 99 et 2001, donc c'est un parcours absolument monstrueux. Quand tu regardes dans le rétro, quel regard est-ce que tu as sur ton parcours? En essayant d'être le moins dur possible avec toi, bien sûr.
Je regarde pas dans le rétro, parce que ce que j'ai fait, en fait, j'y réfléchirai plus tard, tu vois. Pour l'instant, égoïstement, ce qui m'intéresse, c'est le futur ou c'est maintenant. Et je pense que on devient fou si on pense à la valeur de ce qu'on a fait, si ça a de la valeur ou pas. L'artiste est le moins bien placé pour décider si ce qu'il fait est bien ou pas. Le public qui décide. Et puis d'ailleurs, le succès commercial ou non, il est même indépendant de la qualité.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a des artistes qui vendent énormément et qui, je pense, font des choses pas terribles, qui ne resteront pas. En fait, on est coincé dans le présent, mais il faut regarder les choses avec plus de distance, notamment temporelle.
Mm-hmm.
Quand je regarde dans le rétro, mais encore plus avant ma naissance, c'est comme si la musique était, l'histoire de la musique était juste quelque part. C'est-à-dire ce qui est vraiment important, ce qui construit la culture humaine, est universel et reste. Pour moi, ce qui a de la valeur, c'est ce qui va rester. C'est un peu de mon âme, en fait. Et je pense à ça, en fait. Je pense que à faire des choses qui vont rester et pas forcément à ce que ça marche commercialement, mais l'un est fonction de l'autre, quoi. C'est-à-dire
oui,
que
bien sûr.
Je suis amené à sortir un super morceau qui soit fort, quoi, qui ait de la force dedans, qui soit important, qui soit émotionnel, et ben, il va trouver son chemin. Il trouvera son chemin à la radio ou pas à la radio ou à la télé, en synchro, en cinéma ou même sur l'ordinateur des gens, tu vois, qui cherchent un Spotify. Et finalement, voilà, donc du coup, quelque part, ça reste juste, quelque part.
Je voyais pas la musique comme ça, c'est peut-être un aspect de la musique classique que tu as et que nous, on n'a pas, parce que c'est vrai qu'on a une approche plutôt rock et électro, et c'est vrai que tu as je sais pas, une espèce d'aura dans l'explication de la musique. Moi, je pourrais rester des heures, on peut pas évidemment, mais je pourrais rester des heures quand même. Jean-Benoît, merci infiniment de nous avoir fait un coucou sur Trent Mix Radio. Je sais que tu veux te faire de plus en plus rare dans les médias, d'après ce que j'ai compris, donc c'est un super cadeau que tu nous as fait. Tu vas faire énormément d'heureux, vraiment. Je rappelle que la sortie de Star Walker, c'est le 1er avril prochain. Et l'EP Losers Can Win sort le 18 mars, donc dans 3 jours. Donc j'invite évidemment les auditeurs à se le procurer et à venir vous voir à Wheel of Green à Paris aussi, parce que vous allez vous produire avec le groupe R. Jean-Benoît, voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.